Bonjour! Pour ce deuxième podcast, j'aimerais vous faire part de mes réflexions sur le langage. Car après tout, les mots délimitent généralement nos pensées au quotidien. Premier problème, on fait souvent un mauvais usage des mots existants. Quand on ouvre le Robert de Poche, la première définition qui sort pour animal, c'est « être vivant, organisé et doué de sensibilité et de motilité ». Les hommes sont donc inclus dans cette définition. Donc si l'on veut parler des animaux, sans les humains, il faut employer le terme de bête ou d'animaux non humains. Cela peut paraître un détail, mais je pense que non, et je m'efforce de parler comme je pense. C'est-à-dire ici de ne pas exclure les hommes du règne animal. Et puis comme l'a dit Albert Camus, tout le malheur du monde vient de ce que les hommes ne tiennent pas un langage clair. Donc comme le langage est la matière de notre pensée, il faut s'attacher à utiliser les mots qui traduisent notre pensée. Une autre chose me dérange. Quand on regarde le deuxième ou le troisième sens d'animal ou de bête, on tombe sur des choses très surprenantes. Pour animal, sens figuré, personne stupide. Pour bête, personne inintelligente ou personne dominée par ses instincts. Pourquoi ces termes péjoratifs sont-ils associés à une des grandes branches du vivant? Non seulement des mots existants sont mal employés et des termes doivent être définis, mais aussi le langage contribue à notre vision des bêtes comme très inférieures à nous. Pour expliquer cette thèse, je tiens à aborder 4 points. Pour débuter ce premier point, je vous propose un extrait de Jean-Claude Nouette, écrit dans la Revue des sciences morales et politiques en 1986. La violence dont sont victimes les animaux apparaît jusque dans notre langage. Pourquoi donc « bête comme une oie »,« sale comme un cochon », »,« paresseux comme une couleuvre » ? Pourquoi les Français sont-ils des veaux ? Pauvres veaux ! Pourquoi le bonnet d'âne ? Pourquoi la bêtise elle-même ? À la suite d'un récent attentat à la bombe, j'ai relevé les propos d'un homme politique de premier rang, qui a déclaré être, une fois de plus, horrifié par le caractère bestial et inhumain de tels actes. Mais en quoi donc un attentat terroriste est-il propre à la bête, alors qu'au contraire, cette cruauté est spécifiquement humaine ? Pourquoi existe-t-il ce besoin d'avilir l'animal tout en faisant constamment référence à lui ? Fin de citation. On fait d'une pierre deux coups, donc on déconsidère les bêtes et on humilie l'interlocuteur. Les expressions que vous venez d'entendre sont vexantes, irritantes, mais ça peut même aller plus loin, jusqu'à la discrimination. Les Tutsis ont ainsi été assimilés à des rats, des serpents, des cafards, afin de fonder leur pseudo-infériorité. Ces analogies sont juste illogiques, révoltantes dans les deux sens, et ne doivent donc plus être utilisées. Secundo, le langage véhicule des associations douteuses. La viande est en effet associée au prestige social, à la virilité, à la bonne santé. La viande rouge, qui fait référence au sang, est synonyme de vitalité. Cette imagerie populaire s'ajoute à un rapport d'analogie entre l'objet ingéré et le mangeur. Il y a cette idée assez ancrée dans l'opinion commune, comme quoi on est ce qu'on mange. Les études de l'Organisation mondiale de la santé, qui classe la viande transformée comme cancérogène et la viande rouge comme probablement cancérogène, passent ainsi à la trappe. Tertio, les bêtes sont assimilées à des objets ou des machines. Les animaux utilisés en labo sont écrits dans la liste de matériel. Concernant le monde de l'élevage, les truies sont par exemple considérées comme, je cite, « des machines à recracher des porcelets saucisses ». Et dans l'industrie des chèvres, les jeunes mâles sont considérés comme, je cite encore, « des sous-produits du lait ». C'est-à-dire, ils servent à provoquer la lactation et une fois que c'est fait, on les passe à la moulinette. Ce langage dit professionnel contribue lui aussi à notre vision des bêtes comme moyen uniquement et pas comme fin en soi. Quattro, le vocabulaire culinaire et par ailleurs les cuissons et les assaisonnements nous cachent la réalité. Je ne donnerai qu'un exemple, derrière le mot gigot se cache une cuisse de mouton ou d'agneau. Cela rejoint le déguisement de la réalité dont je vous parlais dans le précédent podcast. En plus, le langage véhicule l'idée d'une indistinction, d'une répétition de l'identique, d'une série. La violence infligée à une masse est nécessairement plus difficile à nommer, et donc à repérer comme telle. En effet, on ne parle pas d'individus, mais de masse, de troupeaux. Vous aurez remarqué que l'on parle d'un kilo de poisson au lieu de 12 sardines tuées. Nous l'avons vu, le langage est crucial dans notre façon de penser. Prêtons donc attention à ces mauvais emplois si fréquents, afin de nous exprimer le plus justement possible sur le réel. Demain, nous aborderons quelque chose de fondamental dans notre société.